Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. Ce soir, nous sommes en compagnie d'André Ardelais. André Ardelais, poète peu connu, pas assez connu certainement, poète donc du XXe siècle, qui a été d'ailleurs, enfin, on va parler de sa vie assez discrète, quoique on nous ait dit qu'elle était discrète parce qu'on ne s'est pas assez occupé de lui, ce qui est une autre façon de voir les choses. Donc André Ardelais est né au début du siècle, en 1910. Il est né à Vincennes, hein. Il est né d'une famille riche, bourgeoise. Ses parents sont la tête d'une petite entreprise qui fabrique des alliances de mariage. Les alliances nuptia. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, parce que quand on regarde la vie d'André Ardelais, sur laquelle on a assez peu de données biographiques, on s'est basé essentiellement sur... un résumé biographique qui est à la fin de ses œuvres complètes publié chez Gallimard, et puis quelques notes dans un ouvrage de Guy Darol qui lui est consacré. On a assez peu de choses, très peu de choses, mais par contre ce qu'on sait, c'est qu'on ne lui connaît aucune compagne, aucune femme au long de sa vie. Peut-être beaucoup de maîtresses, certainement.
Voilà. Il aura contracté très peu d'alliances, en fait, hein, tout au long de son existence.
Voilà. Donc,
y compris avec des groupes littéraires de l'époque. Y reviendrons.
Et à ce point méconnu, Michel, que tu lui as même donné un an de plus, puisqu'il est né en 1911.
Il est né en 1911, oui. Mais c'est-à-dire que les poètes sont toujours en avance, on le sait bien. Il est discret. Non, en fait, 1910, c'est le mariage de ses parents. Donc, il naît très vite après le mariage de ses parents. Il naît donc à Vincennes, dans une atmosphère très tranquille, assez choyée, on peut dire.
Une atmosphère, une famille bourgeoise qui le restera. Et lui-même, nous en parlerons, a mené une vie de grand bourgeois, d'une certaine façon. Nous reviendrons un petit peu sur ces épisodes parisiens.
Il va prendre le relais, il va reprendre en main l'entreprise familiale.
Sans pour autant se passer l'alliance au doigt.
Sans pour autant se passer l'alliance au doigt. Et il va, je crois, tenir cette entreprise jusqu'à ce qu'elle périclite.
Jusqu'en 70,
peu de temps avant sa mort et bien après la mort de ses parents. Voilà. Donc Ardelais, il naît donc à Vincennes et c'est un univers, enfin, très petit, il est marqué par ses balades. Ils habitent, je crois, dans une belle villa. Il va très souvent au bois de Vincennes. Il est aussi donc très tôt, je crois que en 1907, donc en 1917, excusez-moi. Il est emmené à Saint-Raphaël, un petit peu pour qu'on le... Donc il a 6 ans, pour qu'on l'écarte un petit peu. Le père est envoyé au front. Hein. Le père est fantassin dans la Meuse, je crois. Et il va aussi découvrir Saint-Raphaël. En fait, il y a trois pôles de l'enfance qui sont très importantes, qui sont Vincennes, son bois, ses balades. Saint-Raphaël, où il découvre aussi tout un autre type de campagne, et aussi la Normandie, puisqu'Ardelais, c'est un nom normand. La famille vient de Normandie. Et il y a cette propriété de la brique, je crois, qui est la propriété du grand-père, où il passe toute son enfance à aller chasser les vipères, repérer les papillons. Enfin, il y a un rapport très, très fort avec la nature. Alors, je voulais citer une toute petite phrase qui parle bien d'Ardelais, qui est de lui-même. D'ailleurs, il dit « J'ai été ce gosse ébloui, possesseur d'une richesse sans limite. » Et il rajoute « Au monde, il n'a jamais fait aussi beau que dans mes états d'enfance et dans ce jardin. » Il parle d'ailleurs du jardin de Vincennes. « Jamais, et je sais que je ne guérirai pas de ces saisons lumineuses. » Voilà, ça définit assez bien le choc primitif, enfin initial de la poésie chez Ardelais, parce que toute sa vie, il va passer son temps à essayer de retrouver le souvenir de ces choses-là.
Mais d'une certaine façon, on pourrait dire que il fut avant la lettre le paysan de Paris, pour reprendre le titre d'Aragon.
Voilà, et aussi le piéton de Paris de Léopold Fargue, qu'il a souvent cité, parce que voilà, le Gaspard de la nuit, enfin, voilà. il fait tout le temps référence dans toute son œuvre à tous ces poètes marcheurs, on va dire, hein, les Aloysius Bertrand, les conteurs, ceux qui sont toujours en rapport avec le monde invisible, à travers le monde qu'on voit, à travers les lieux, à travers les terrains vagues, à travers les rues, à travers les paysages de campagne. Voilà, on va aller peut-être pas trop...
Mais on peut aussi citer Marcel Proust, Arthur Rimbaud, Gérard de Nerval.
Voilà, Nerval aussi comme promeneur de Paris, comme personne qui vit dans le souvenir. Voilà, c'est une espèce de lignée de poètes auxquels il se rattache. Alors évidemment, il écrit beaucoup plus tard, mais très discrètement. On peut dire encore sur son enfance que donc ses parents déménagent de Vincennes pour aller s'installer à Beaubourg dans Paris, et que ça, c'est important aussi par rapport au quartier que c'est, parce que c'est le quartier... C'est le quartier de Nicolas Flamel, c'est le quartier du Moyen-Âge, c'est un quartier aussi dans lequel il reste en lien avec tout un passé qui le fascine. Et puis, il va toujours régulièrement donc à la brique en Normandie, faire pratiquer la pêche à la truite. Voilà. Et puis, je pense qu'on en aura assez dit là-dessus, parce que ces textes en parlent beaucoup mieux. Peut-être un petit détail, puisqu'on va lire ce texte qui est consacré, je crois, à Germaine. Il y a cette initiation à l'amour physique, hein, qui lui est donnée par une servante de ses parents. Hein. Chose qu'il atteste, hein, c'est raconté dans un roman érotique de la fin de sa vie qui s'appelle Lourdes-Lentes. Mais c'est bien donc cette Germaine dont il parle dans plusieurs lettres, qui l'a initié à l'amour, et c'est un grand choc, le grand premier choc de sa vie, dont je pense aussi il ne se remettra pas, puisqu'il passe son temps à rechercher cette femme à travers des dizaines d'autres femmes.
Longtemps je me suis couché de bonne heure, le matin. J'avais mes nuits. Je les ai toujours, mais sans comparaison. Presque chaque soir, vers 9 heures, je prends un bouquin et m'allonge sur mon lit. Souvent, j'abandonne vite ma lecture. Commence alors l'étendue d'immobilité et de silence apparent où je découvre ma totale liberté. Nul guetteur sur les points culminants de la ville noire et bleue ne se soucie du minuscule espace que j'occupe sous mon toit. Rien ne me désigne à sa méfiance. Ils n'ont pas encore de machine à détecter les rêves subversifs. Mais ça viendra, faisons-leur en ce domaine le plus large crédit. Il me reste, je suppose, quelques bonnes années devant moi pour cet exercice de l'ombre et du secret. Ma pensée file, et se file, ignore toute contrainte, vire, plonge, se retourne avec l'exquise souplesse d'une loutre jouant dans l'eau. Nous avons tous du génie dans la position horizontale et les yeux clos.
De l'encre renversée a maculé le couvercle à glissière qu'une encoche permet de tirer. Par les fentes de la glissière, l'encre a pénétré à l'intérieur, tachant le fond et les petites cloisons du plumier. Procédons à son inventaire. Un crayon à mine de plomb. 3 crayons de couleur de taille inégale. Un canif à la lame rouillée. Une gomme réduite au volume d'une bille, mais aplatie à ses 2 pôles. Les parties plates sont luisantes, craquelées de fines rides. Un pistolet à pommes de terre. Une araignée constituée par 2 tortillons de papier passés dans la boucle d'un élastique. Le numéro de téléphone de la grande sœur lascive de Steve Masson, inscrit sur le fond de bois. Un timbre-poste du Congo, oblitéré et en mauvais état. représentant un tigre violet dans une jungle brune. Enfin, un porte-plume en bois, d'un rouge vineux, muni d'une plume sergent-major, qui vaut une étude plus attentive.
Les écoliers en maraude écartèrent les saules. Ils n'osaient croire ce qu'ils voyaient. Mais si, les baigneuses dormaient nues sur le sable, enlacées à leurs désirs comme la rivière à ses méandres.
À plusieurs kilomètres de là, un enfant se mettait en marche comme au sortir d'un très long sommeil. Il croyait se souvenir que quelqu'un lui avait donné rendez-vous dans cette région, mais l'ignorance du lieu précis de la rencontre ne l'inquiétait pas. Il n'avait qu'à se laisser conduire par sa certitude de ne pouvoir manquer tôt ou tard ce point de l'espace où une révélation capitale l'attendait. Il suivait un chemin rocailleux, sur une terre aride, semée de rares buissons, d'arbres nains, de cactus. Tandis qu'il s'avançait, il subissait une étrange métamorphose. Jamais, aussi loin qu'il remonta dans son passé, il n'avait éprouvé une pareille aisance à se mouvoir, comme délivré de sa pesanteur. En même temps, il vieillissait d'une manière incompréhensible. Un serpent traversa le chemin, à une cinquantaine de mètres, et se coula sous une touffe d'épines. L'enfant s'arrêta et le suivit des yeux. Son regard avait pris une acuité telle qu'il distinguait nettement le reptile immobile et confondu par sa couleur avec le sol. L'idée d'un danger possible n'effleura même pas son esprit. Il regarda au loin des hauteurs crayeuses et constata que sa vue restait aussi perçante, quelle que fût la distance. Il avait l'impression qu'il lui suffisait de s'imaginer en un lieu pour que son corps s'y trouvât transporté. Sur les hauteurs, dominant une carrière, trois silhouettes sombres se dressaient à côté de lui. Il l'eût juré.
Si tu lâches un caillou sous l'arche froide du pont, tu l'entendras rouler longtemps, de marche en marche, sur l'escalier de l'écho. Et le silence qui se reforme ensuite parle encore d'une fugue argentée à travers le pays des gardons. Thank you.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie d'André Ardelais. Alors, je vais faire quelques petites corrections là, par rapport à ce qui a été dit avant. Hein, on a annoncé un texte qui parlait de cette rencontre avec Germaine, la servante de ses parents qu'il a initiée.
Il faut dire qu'elle a tenu tellement de place dans sa vie. Que...
Voilà, mais en fait, le texte qu'on a lu, là, qui fait d'ailleurs cette petite allusion à Proust, hein, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », c'est un texte qui introduit ce long roman qui va publier à la fin de sa vie d'ailleurs et qui va marquer aussi une épreuve un peu puisque ce roman va faire l'objet d'un procès,
procès
pour atteinte aux bonnes mœurs. On y reviendra après, plus tard. Donc là, on était avec l'enfant Ardelais, hein, qui est donc dans cette famille très, très bourgeoise, qui s'est installée donc dans le quartier de Beaubourg, qu'elle ne quittera jamais. Je crois qu'ils vont déménager de quelques numéros.
Oui, pour du aller... 30 au 44.
Voilà, donc ça, d'ailleurs, ça donne un petit peu une idée de la grande stabilité de ce côté qui ne bouge pas trop, en apparence en tout cas. Et André, le petit André va être envoyé au lycée Louis le Grand où il devient un élève très brillant.
Hein, c'est un prix d'excellence.
Un prix d'excellence, enfin, qui étonne tout le monde, enfin, par son côté très brillant. Mais dans le même moment, il y a aussi cet enfant secret qui passe son temps à aller observer, à aller capturer les vipères, à aller observer les ruisseaux, les insectes, à s'approcher du mystère des femmes qu'il voit.
Oui, mais déjà, il le dit quand il est simple écolier, il n'est pas encore bachelier, donc. À un moment donné, il le dit. Bon, tout va bien, mais il précise, j'ai le sursis.
Voilà.
Donc, il a cette capacité à aller au-delà des frontières de son école, de son lycée, et effectivement, à se promener. C'est un marcheur.
C'est un marcheur.
Il est dans cette tradition des écrivains qui marchent également.
Voilà. Et d'ailleurs, il va mener une sorte d'existence de marcheur clandestin, de promeneur clandestin, puisque pendant qu'il est à Louis le Grand, il va aussi au Tremblay, il va assister aux courses de chevaux, il va se promener dans les zones. Il est aussi attiré, évidemment. Il dit d'ailleurs que Proust le fascine aussi. Il dit qu'il lit Proust à la bibliothèque de la Montagne Sainte-Geneviève comme un grand roman policier, hein, et il lit énormément. C'est-à-dire qu'il commence très très jeune à lire tous ces gens, qu'on a déjà cités, tous les grands classiques. Il est fasciné par Gérard de Nerval, entre autres.
Alors il y en a un qu'on n'a pas encore cité, et Ardelais se plaisait à dire que s'il n'y avait qu'un livre à emmener sur une île déserte, ce serait Peter Ibbetson de Georges Dumouriez.
Voilà. Donc,
Georges Dumouriez, il...
Alors bon, on reviendra peut-être à cette histoire de Georges Dumouriez qui représente un peu le penchant chez Ardelais de l'attirance pour les rêves et pour la façon de se promener à l'intérieur des rêves. Parce qu'en fait, ce roman, Georges Dumouriez, je crois, n'était pas du tout destiné au départ à être romancier. Et c'est, je crois, le frère d'Henry James qui l'a convaincu, après qu'il lui a raconté cette histoire qui venait d'un rêve à lui-même, d'en faire un roman, quoi. Ce que Ardelais fera aussi, puisque on peut dire que le bouquin le plus connu d'Ardelais, c'est ce petit roman qui s'appelle « Le seuil du jardin », oui. Hein, et qui raconte aussi la recherche désespérée d'un peintre pour retrouver un rêve d'enfance et arriver à le peindre.
Hein. Et qui lui a valu la reconnaissance d'André Breton.
Voilà, oui,
mais
c'est à partir
mais par de... ailleurs, il faudrait se garder de considérer Ardelais comme étant uniquement un lecteur des grands classiques. C'est aussi quelqu'un qui est très attiré, très concerné par ce qu'on appelait déjà à l'époque la culture populaire. C'est quelqu'un qui était très sensible à ce qu'on retrouve par exemple dans Nadja d'André Breton, c'est-à-dire tout cet environnement, y compris publicitaire du reste, qu'il reprend à son compte et qu'il réinvestit dans son écriture.
Voilà, et puis aussi le polar, il est fasciné, il lit énormément de polar, hein. Il est Chester Himes... Pardon ?
Fantomas.
Gaston Leroux.
Gaston Leroux. Et aussi, il est passionné par l'argot. Hier, je lui disais encore qu'il a rencontré Marcel Schwob, par exemple, qui est un grand spécialiste de l'argot, et qu'il est ami aussi avec Audiard. En tout cas, ils se fréquentent, ils se sont rencontrés, ils ont beaucoup d'échanges sur ça. Donc, c'est quelqu'un qui a une culture très large et qui est, comme tu l'as bien dit, très attaché au côté populaire. On va peut-être lui laisser la place, au fond, parce que là, on parle beaucoup de lui, mais ça serait peut-être bien d'entendre son texte. Sonnait en coudrier.
En coudrier. En écartant le chèvrefeuille, tu démasqueras le lavoir magique, où nul coup de battoir, nul saut de truite ne t'accueille. C'est à midi que choilan œil, jambe ballante, va t'asseoir contre le royaume du Loir, des calèches frôlent les feuilles. Laveuse des quatre jeudis, à confesse ce qu'avez-vous dit, pour qu'on vous éloigne aussi vite. Un prélat à peine teinté, avec un lièvre prend la fuite sous des taillis
peut fréquenter. Steve, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Je ne sais plus quoi dire. Le dos au soleil, assis d'une fesse sur le rebord de la fenêtre brûlante. Je voudrais tant de choses qu'il vaut mieux me taire. Qu'est-ce que tu voulais? Merde. Elle ouvre les yeux, me sourit. T'es mal poli, Steve. Je le dirai à ta mère. J'avais envie de pêcher des truites. On les aurait mangées tous les deux ce soir dans la cuisine. Pourquoi t'y vas pas? Il est bientôt 3 heures. Mémène, Germaine. Oui. Comment lui avouer? Lui dire ce qui s'est jeté sur moi, cet éclair planté en moi. Nous nous regardons. Le temps des feintes est révolu. Une interrogation muette porte cette minute à sa dimension véritable. Elle désigne le bras du fauteuil. Viens donc t'asseoir. Viens donc t'asseoir. T'auras les fesses talées à fort sur tes pierres. J'obéis. Je pose ma main autour de son cou à peine. Elle a rejeté légèrement la tête en arrière, coinçant ma main entre sa nuque et le cuir chaud. Son ventre se soulève et retombe paisiblement au rythme de ses organes. Son ventre et son con, inimaginable, inconcevable et plus réel que tout le reste de la terre. Je ne suis plus au monde, ou plutôt j'y suis pour la première fois de ma vie. Ma part d'Éden, je vais la toucher, cash, en une éblouissante monnaie que ne cote aucune bourse. Sacré vieux con de milliardaire, magnat de mon cul, baderne contrôlé, si seulement vous deviniez. Vous ouvririez tout grand vos coffres en échange d'une heure, une seule pareille. T'as soif, mon Steve? Je vais te préparer de la framboise avant que tu partes. T'as soif, hein? Déjà, elle s'est levée et partie vers la cuisine. L'été m'imprègne, entre dans ma peau, dans mes petites couilles. Je me suis mis à bander seul. Elle revient avec un grand verre couleur de rubis où elle trempe une paille et me le tend. Je le repousse. Toi d'abord, Germaine. Elle hésite. Un fugitif équilibre ses yeux bleus, graves, fixés sur les miens, n'ont rien décidé encore, ou plutôt si. Elle me prend le verre des mains, suce la paille, aspire quelques gorgées. Ce sont nos regards qui se boivent, ne se délaissent pas une seconde. Elle me redonne le verre, la paille, où est resté un petit peu de sa salive. À toi. La toile de cette journée se fend sous une serpe aveuglante. J'envoie valdinguer le verre à travers la fenêtre, me jette sur sa bouche, mais elle me maintient un instant à distance de ses bras de catcheuse, fermant les yeux. Doucement, mon chéri, Steve. Son haleine à la framboise, de tout près. Elle entr'ouvre sa bouche, m'attire. Ça a duré 1 siècle, je suppose. Oui, j'ai eu ma part. Pendant une pause, elle m'a dit « Tu veux que je te donne à boire? Du vrai? Laisse-moi t'apprendre. » Elle a posé ses lèvres contre les miennes et m'a injecté, distillé sa salive à petites giclées. Elle en avait plein la bouche. Du baume de mon cœur, Steve. Y a pas besoin de paille pour ça. Entre 2 jets, je têtais sa langue charnue, raclant les papilles entre mes dents. Je me frottais contre son ventre, soie et tiédeur. Je fondais dans mon slip au bord de la décharge. Enfin, on a repris notre souffle, émerveillé, incrédule. Nous nous sommes désunis parce que ces instants oméga, il faut se les regarder comme on tient un tableau à bout de bras pour mieux le voir. Quelqu'un a sonné. Lorsqu'elle est revenue, elle m'a embrassé encore une fois, un très long baiser. Tu pourras attendre jusqu'à ce soir, mon grand. J'ai du travail.
Écoute. Tu les entends? Ils sont là, à une distance incalculable, contre le mur.
Ohé, oh.
Ils s'appellent les hôtes chantent. C'est leur nuit, la seule de l'année. 1000 dans la ville, noirs d'habits, noirs de figure, ils grimpent, s'insinuent dans les tuyaux, gagnent les mansardes. Le plus simple d'entre eux connaît ces escaliers et ces réduits secrets dont la démolition des immeubles ne dévoile qu'un hiéroglyphe hermétique. Tu les entends? Ils progressent à travers les conduits, signalent leur position, échangent des souhaits. Les marmottes dorment. Écoute. De la main, elle effaça son masque, ses haillons. Chut, je vais te montrer. Elle écarta mes rideaux. La nuit se fendit sous le soc de clarté d'un Hiroshima à l'envers. Un soleil d'avant le verger interdit. une foule énorme dansait et ondulait au son de 792 000 orgues électriques illuminés par 793 milliards de volts. Tout de blanc vêtu, les fées ramoneuses. Tout de blanc vêtu, les fées ramoneuses, avec parfois un peu de saphir aux oreilles. Était-ce cela qu'il découvrait aussi les fantomas des toits? Dans les faubourgs, on pêchait à la ligne, on jouait aux quilles, les couples passaient devant des tonnelles. Je voyais tout, jusqu'au moindre détail, comme si j'avais été ensemble chacun d'eux, chacune d'elles. Sa main serra la mienne un peu plus fort. Un magnésium aveuglant figea le monde dans son éternité. Le pétale d'une jacinthe resta suspendu dans sa chute. Une conduite d'eau qui fuyait stoppa ses gouttes. Un charlatan interrompit le geste qui lançait des dés, probablement pipés. J'avais les lèvres de la fée contre les miennes. Je vis à quatre pattes, je perds mes dents, mes cheveux. J'ausculte les murs. Oui, était-ce cela qu'il contemplait en même temps que moi, ces fantomas en habit de suie? Écoute, tu les entends?
Blomet Street Blues. Des Vénus en flammes de punch frottaient la biguine créole. Leur doux contact a fait dresser, ô Blomet Street, des auréoles sur nos espoirs à caresser. Des sergents de la coloniale, des Hollandais, volants ou non, Monsieur Poulet craque des Antilles. Et la corolle fleurant bon quand la nuit s'offrit aux vanilles. Il tombait le beau temps des îles sur les pentes du rhum glacé, enseigne au vaïnet tranquille. Puis la clarinette a lancé son chant au sommeil des marquises. Mais insensible à ces mirages, derrière son zinc, le patron surveillait la consommation. Quand on a patente et façade, faut penser à la limonade. Nous, on s'est cassé dans la nuit, citant Arthur et le grand Charles. Très loin, un sourire a pâli. Le tien, qui sait? Toi dont je parle sans te connaître au ciel du lit.
Voilà, nous sommes en compagnie d'André Ardelet. Enfin, on est toujours en compagnie de poètes ici, même s'ils ne sont pas là, ce sont nos invités permanents. Donc, on l'avait laissé comme étudiant à Louis le Grand, étudiant brillant et déjà marcheur invétéré, enfin rêveur de promenades solitaire et imaginaire, qui garde comme un jardin secret, hein, il n'en parle à personne, c'est son aventure à lui. Et puis donc il va, après, il va commencer des études de médecine, je crois.
Des études de médecine, hein, qu'il ne terminera pas.
Qu'il ne terminera pas, pardon. Et il va également, il est proche de l'entreprise familiale, mais je ne sais pas s'il prend déjà charge de cette entreprise. Je crois que c'est plus tard que ça va arriver.
Non, ça viendra plus tard. Donc les études de médecine, donc je le redis, il ne les achève pas.
Je crois que c'est au retour de son service militaire.
Voilà, c'est au retour du service militaire.
Hein, il ne les achève pas, mais cependant, pendant la guerre,
voilà,
il va faire office de médecin.
Oui. Alors, on connaît peu de choses d'Ardelet pendant la guerre, sauf cette précision. Il aurait exercé des activités médicales.
Voilà, bon, il a dû les exercer juste le temps de la drôle de guerre, oui, c'est-à-dire un an. Il y a aussi un fait marquant aussi, c'est la perte de sa grand-mère Vonvon, qui est un personnage protecteur. Enfin, c'est elle qui l'a emmené, c'est elle qui lui a fait découvrir le parc de Vincennes, etc. Parce que les parents, bien que ce soit des patrons, ils travaillent quand même tous les jours à l'entreprise. Et c'est cette grand-mère qui va lui faire découvrir toutes sortes de paysages, Saint-Raphaël, mais aussi le bois.
Voilà. Et c'est à cette époque-là, à ce moment-là, que l'on pourrait revenir sur ses lectures de Proust, parce que nous avons vu que c'était un lecteur assidu, un grand lecteur de Proust, et d'une façon assez amusante, assez caustique, à un moment donné, il nous dit « Ma culpabilité dans la défaite de l'armée française ne saurait faire de doute, car nous lisions Proust.
» D'accord. Alors là, on a été... Alors, on va peut-être passer un petit bout d'une interview d'Agathe Fallet, qui a été la femme de René Fallet, parce qu'il y a eu une amitié très forte entre ce couple et André Ardelet. Bon, on doit remercier d'ailleurs à cette occasion Jeannine Marc-Peset qui a organisé ce rendez-vous, qui nous a accueillis chez elle pour pouvoir interviewer Agathe Fallet. Et bien qu'il y ait peu de choses, disons, historiques, factuelles sur la vie d'André Ardelet, c'est un portrait du personnage qui est bien sympathique. On va l'écouter maintenant.
On a du mal à imaginer, c'est quelqu'un de très discret, enfin c'est l'impression qu'il donne, un octambule beaucoup, quelqu'un qui...
Il est très discret dans la mesure où on ne lui a jamais rien demandé. Il faut aussi voir le contexte. Ardelet n'a pas connu de notoriété particulière. Hein. Ardelet a toujours eu un petit cercle d'admirateurs, mais si vous voulez, c'est un peu comme les Otto. Les Otto, il a 15 000 lecteurs et puis c'est tout, il n'y en a pas plus. Et Ardelet, il y en a peut-être 10 000, il y a peut-être 10 000 lecteurs qui sont des fanatiques de sa poésie et de ses textes poétiques. Les choses surgissent aussi. Ardelet, il était tout seul dans son appartement de la rue Beaubourg avec papa et maman. Nous, on allait jouer à la belote, par exemple, toutes les semaines, mais je doute que ça intéresse quelqu'un.
D'accord.
On joue à la belote.
Par exemple,
avec,
ça nous intéresse de savoir
Marcel,
qu'il était toujours... Par exemple, dans l'appartement de ses parents.
Il est resté jusqu'à la mort de ses parents.
D'accord.
Et jusqu'à la sienne propre, d'ailleurs.
D'accord.
Il n'a jamais bougé de là.
Ça, non. C'est un truc frappant.
C'est un type qui était quand même ancré dans son passé. C'est terrible. Ah, totalement. Hein. En même temps, c'était un grand bourgeois, quand même, Ardelet. On restait dans le lieu où on avait vécu avec ses parents. C'était un très bel appartement rue Beaubourg.
C'était l'héritage, quoi.
C'était l'héritage, oui. Et il a géré les alliances nuptiales jusqu'à ce que la maison périclite et qu'il vende ses stocks d'or. Il n'en avait pas beaucoup, pauvre vieux. Non, il n'était pas très riche, d'ailleurs.
D'accord.
Mais enfin, il avait de quoi vivre. Il avait une retraite, il avait été gérant de cette maison, donc il avait une retraite, sans doute, peut-être même plus que gérant, PDG, d'ailleurs on l'appelait toujours le PDG, quand on voulait se fâcher avec lui, mais il avait de quoi vivre, oui.
Mais il prenait ça bien quand vous lui disiez ça.
Oh, oui, il adorait rire, oh là là, qu'est-ce qu'il a aimé rire. Ardelet avait un sens de la gaffe absolument extraordinaire, on lui avait dit... Il voulait porter un médicament à Georges pour ses reins, pour ses coliques néphrétiques. Et on lui avait dit surtout, si tu vas chez Jeanne, ne parle pas de Pugson. Oui, bien sûr. Non, je ne suis pas fou, évidemment. il sonne à la porte, ou il frappe, je ne sais plus s'il y a une sonnette. Jeanne vient lui ouvrir et Ardelais lui dit « Est-ce que Pupson est là ?» Bingo dit « Dehors ! Fichez-moi le camp pour mettre jamais les pieds ici !» Et ça s'est terminé comme ça, son...
Alors donc, c'était un, voilà, ce petit extrait d'interview. Il faut juste replacer pour le contexte, rappeler que, évidemment, le Georges en question, c'est Georges Brassens, que Ardelais a rencontré, mais peu de fois, je crois que c'est la seule fois d'ailleurs où il a failli le rencontrer en direct. Ils se sont vus à part ça une ou deux fois. Il est allé évidemment l'écouter. Mais Ardelais était par contre très ami avec... René Fallet, donc, qui était aussi un très grand ami de Brassens, ami aussi avec Robert Doisneau, qui a pris beaucoup de photos d'Ardelais. Et puis surtout, par la suite, on va y arriver peut-être un petit peu après, avec Pierre Macorlan, qui a un petit peu, qu'il a intronisé en littérature. Voilà, peut-être on va relaisser la place à ces textes, c'est l'essentiel.
Le mystère, c'est la voix étouffée des ramoneurs derrière les murs, et le parcours de la grange batelière sous l'opéra. La peur, c'est un roulement de tombereaux la nuit dans un bois où ne passe aucune route. La douceur, c'est un vol de chouette sous le taillis au crépuscule. Le contentement, c'est l'odeur d'une blonde qui, lente, efface ses bas noirs. L'angoisse, c'est la congestion comme une émeute violette sur le bitume où bouge un soleil ahurissant. L'été, c'est l'ombre de la jarre quand perle son frais et cette parole qui traverse encore le dédale des vacances. L'îlot trésor, c'est la touffe de parfum entre tes cuisses, salée. Le désir, c'est la flèche de rubis qui vole par-dessus l'Orénoque en flamme et décoché sans bruit. L'amour, c'est ce pays à l'infini ouvert par deux miroirs qui se font face. L'enfance, c'est la clé rouillée que cachent les buis, celle qui forcerait toutes les serrures. Le rêve, c'est l'instant où tombe enfin la robe des clairières. La plus belle récompense de l'homme, c'est encore son sommeil. Et le mien tarde bien à venir.
Bien entendu, les bruits ne s'anéantissent pas, sauf pour nos oreilles. Ils continuent à vibrer dans les années-lumière. L'idée de les recueillir, de les enregistrer et de les reproduire à volonté s'est traduite par diverses inventions qui exigent des appareils compliqués et encombrants. Il est plus simple de les capturer momentanément pour leur rendre plus tard la liberté. C'est la première besogne du semeur. Lui récolte avant d'ensemencer. À ses fonctions de charmeur d'orage, mon grand-père, Beaujolais la Pivoine, joignait celle de maîtriser et de répandre les sons. Il les retenait prisonniers dans une boîte grande comme un piège à rats, et les égrenait selon un art qu'on n'enseigne point dans les écoles. Un bruit ne se conserve pas indéfiniment en boîte. Il filtre par les plus minces interstices. Il s'évente. Le semeur doit l'utiliser lorsqu'il est encore frais et surtout le relâcher hors de son cadre naturel pour qu'il prenne toute sa valeur. Beaujolais raflait ses bruits au hasard des chemins tandis qu'il surveillait le ciel, sous un pont, entre deux coteaux, sur une place publique. Puis, il les libérait d'après son inspiration. Soudain, on entendait un angélus traverser la nuit. Une musique de chevaux de bois éclatait dans la cour de l'école. Une trompe de remorqueurs beuglait sous des quinconces assouvis. Une mine détonnait en plein bourg, des charretiers invisibles juraient et fouettaient leurs chevaux dans la closerie d'un presbytère. Ailleurs, un pêcheur croyait percevoir des plongeons et des rires de filles en amont sur la rivière. Quelquefois, il abandonnait sa ligne pour partir à la recherche de ces sirènes villageoises, aussi fraîches et attirantes qu'une rumeur de moulin. « Des nèfles !» L'eau remuait à peine, fourmilière d'or, absolument nue. Allongé sous un saule, la tête à l'ombre, Beaujolais écoutait ses fantaisies sonores et, parfois, s'y laissait prendre lui-même, oubliant qu'il en était l'auteur.
Les carrières. Nous travaillons dans d'immenses carrières, dégageant une poussière blanche qui nous rend pareils à des geindres. La substance que nous extrayons, ou feignons d'extraire, ne répond à aucun usage connu, de nous tout au moins. Notre besogne consisterait plutôt à transporter d'un point à un autre des débris de plâtre. Des camions arrivent bien, mais pour nous ravitailler ou transporter un matériel énorme dont l'utilité se justifie mal. S'ils emmènent comme par hasard un peu de minerai, c'est dans des proportions ridicules et sans comparaison avec notre activité. À titre d'échantillon, qui sait? Les bulldozers attaquent et broutent les collines. Il fait beau. Il fait toujours beau. Nous sommes bien traités, on nous laisse des loisirs. Parfois, un compagnon lance une corde dans un puits, mot qui évoque le lierre et la fraîcheur. Il n'en tire qu'un seau de gravats. On suppose des travailleurs souterrains occupés à ces farces monotones. Le paysage est admirable. J'entends, pour ceux qui apprécient la rigueur et l'aplomb, deux ou trois oliviers réduits à leur tronc nu, un chemin en pente, aveuglant par tous ces silex quelques vignes maigres, des tuiles inapprochables. La mer, immuablement déserte, des falaises qui tombent comme midi, un squelette de barque sur le sable. Nous n'avons jamais soif, nous ne désirons rien, nul ne pose de questions. Nous changeons de secteur et de carrière sans raison apparente. Ce ne sont pas exactement les mêmes oliviers noirs, les mêmes falaises ni la même barque, mais peu s'en faut. Nous respirons une poussière analogue, on remonte des débris similaires d'un puits qui évoque le lierre et la fraîcheur. Si vous pensez à l'enfer, vous avez tort. Jamais je n'ai été aussi heureux. Lorsque je me souviens d'autrefois, je remercie le ciel à deux genoux sur les silex durs, et je crois qu'il en va de même pour mes compagnons. Quel détachement! Quelle délivrance! L'année ne comporte que 4 ou 5 nuits. Quand dormons-nous? Mais peut-être dormons-nous à perpétuité, plus de désir. Les filles, tu sais, les filles, moites et lourdes quand tu soulèves la jupe et leur parfum secret sur tes doigts, ce n'est plus qu'un sourire dans l'ancien miroir. La santé, les cimes crayeuses, nous travaillons dans d'immenses carrières au milieu d'une poussière qui nous rend pareil à des mitrons. Nous transportons des débris de plâtre. Les camions n'emmènent qu'une quantité dérisoire de minerai. À midi, à minuit, nous disposons d'une heure de loisir. Je vais m'asseoir à l'écart. Je contemple un amas de cailloux, une crête aride. Avec l'habitude, on finit par savoir se poser sur le point que l'on observe. Une touffe de myrte vous emplit d'une joie inépuisable. Il m'arrive de pousser jusqu'au port. Quel port? Je n'en sais rien. On, ou bien le temps, a effacé les noms que portaient les plaques des quais et des rues, des noms futiles. Aucun lieu du monde n'est autant consacré à l'absence. La chaleur paralyse la mer. Des bateaux pourrissent à l'ancre. D'autres semblent presque neufs repeints d'hier. Un jour, allongé sur le môle brûlant, j'ai entendu un coup de cloche. Un seul. Attardé inexplicablement, perdu dans un dédale aérien depuis l'époque où le port vivait encore. Il ne tintait pas fort ce coup, et pourtant sa masse a foudroyé la baie. On a dû le percevoir au fin fond des latitudes et des parallèles. Il faisait beau. Il fait toujours beau.
diabolo mente à 10 francs pour pas un rond l'odeur des blondes. Gisèle, Fernande ou Raymond, des petits Jules à la flanc. Il y avait de la promesse sous le corsage et du consentement dans le secteur. On ne payait pas cher son bonheur quand on entrait à l'Ermitage. Sous les arbres de la terrasse, il faisait bon tout simplement regarder venir les événements où la mignonne à prendre en chasse. On avait le choix pour rouler chez les ingénus du dimanche. On jouait le pernaut en deux manches. Vas-y Dédé, à toi de rouler. Quand Mimi à l'accordéon vous envoyait le dénicheur, tout le monde avait du baume au cœur et les filles de Charenton se mettaient dans le temps du patronage. Que de beaux instants retenus dans le frais collier de bras nus que vous tendaient ces enfants sages. La belle étoile des banlieues, la cantilène des serments, des noms qu'on écrit sur le sable et nos soucis à tous les vents, des noms qu'on écrit sur le sable. Et nos soucis à tous les vents.
Donc précédemment, nous avons entendu un texte, le semeur de bruit, où apparaît Beaujolais Lapivoine, le grand-père d'André Ardelais, dont il semble avoir beaucoup appris de la campagne et peut-être même des filles. Et je voulais juste donner les titres des métiers et divertissements. Le charmeur d'orage, le chercheur d'écho, le chef des baisers.
Le poseur de grillons.
Le poseur de grillons, le voyeur, le tueur des vieilles, qui a donné un film avec Serge Gainsbourg
dans le rôle de l'effaceur, d'ailleurs. C'était un autre nom de ce travail très particulier qui consiste à effacer les vieilles. Oui, donc on l'a laissé, donc André Ardelais, à la fin de la guerre. On sait juste qu'il a été démobilisé en passant par Sarlat, et on n'en sait pas plus après, quoi. Et donc la chanson qu'on vient d'entendre, chantée par Germaine Montero, Le Pont de Charenton, eh bien, c'est un texte d'André Ardelais. Puisque, d'ailleurs, peut-être beaucoup connaissent André Ardelais uniquement par ce biais-là, hein, puisque, on en parlera un petit peu plus tard, mais après la guerre, il va rencontrer Guy Béard, et c'est, je crois, André Vert qui avait montré à Guy Béard un texte d'Ardelais qui s'appelait Le Tremblay, et Béard est tombé en admiration devant ce texte, en a fait tout de suite une chanson, donc il y a à peu près une dizaine de chansons qui ont été écrites par Ardelais. Celle-ci était mise en musique, le texte était mis en musique par Christiane Verger, qui a mis aussi beaucoup de choses de Prévert en musique. Voilà, donc, et puis arrive enfin, de la guerre, on peut dire aussi que Ardelais était très malheureux de voir son bois de Vincennes envahi par les uniformes vert de gris. Hein, il dit dedans, des personnages en gris vert nous apprenaient à vivre au moyen de poteaux indicateurs, marcher au pas n'a jamais été mon fort, et je ne me sentais pas dans mon élément. On le comprend. Les années qui suivent la libération, bah là, c'est l'explosion de vie. Et cette petite chanson du Pont de Charenton, voilà, met un petit peu dans l'ambiance. Mais lui, il va surtout se passionner pour le jazz. Il va aller traîner dans les boîtes comme le Lorientais, la Rose Rouge.
Le Blomet,
le Tabou. Oui. Hein, et
le fameux One Two Two.
Le fameux One Two Two. Hein, et donc, il va certainement aussi fréquenter, on peut peut-être le dire sans trop s'engager sur sa biographie, les maisons closes de grand luxe, les Clandais, etc.
Les
maisons de plaisir, comme on dit. Et il va aussi adresser ses premiers poèmes à Pierre Macorlan, qui va tout de suite lui reconnaître beaucoup de talent et qui va l'encourager à écrire.
On peut... Pour ce qui est de ces fréquentations des fameuses maisons de plaisir, il faut peut-être préciser également qu'il s'agissait de maisons de plaisir d'un certain luxe, hein, de
Absolument.
Toute façon. Hein. Il avait des goûts, on va dire, raffinés pour le moins.
Dans la matière,
en tout cas,
et dans
Lourdes-Lente, on le comprend
oui,
très bien.
On le comprend aussi dans Le Seuil du Jardin, puisqu'il y a justement l'allusion dans cette petite pension où vit Steve Maçon, le peintre, ouais. Il y a ce personnage, je crois que c'est Mademoiselle Lafleur, ouais. Qui porte bien son nom et qui, elle, mène une double vie. En fait, on croit que c'est une institutrice revêche et en fait, c'est une grande poule de luxe, on va dire. Hein. Et il la retrouve d'ailleurs, enfin, on ne va pas raconter tout le roman, c'est dommage de couper l'herbe sous le pied. En tout cas.
Un personnage auquel Brassens rend aussi hommage hein, dans certaines chansons, aussi toutes ces bourgeoises qui allaient s'encanailler aussi.
Oui. Peut-être, on n'a pas le détail. En tout cas, il va faire aussi la connaissance de René Fallet. C'est une rencontre très importante parce que René Fallet va l'encourager à écrire pas seulement de la poésie, mais des romans aussi. Hein. Et je pense que René Fallet, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, Christian, cette veine populaire, cette veine... voilà, c'est au fond, Fallet, Ardelais et Brassens, même si Brassens et Ardelais se fréquentaient pas beaucoup, il y a aussi cette espèce de, comment dire, de préciosité populaire, enfin quelque chose comme ça, quoi, quelque chose qui aime l'élégance et qui aime aussi les petits bals, la fête à Neuilly, les bords de Marne, enfin les guinguettes et tout ça. Et puis, il va écrire son premier roman, mais ce roman est refusé hein, par Plomb. Je ne me souviens plus, je crois que c'est Le Grand Stupéfiant.
Voilà. C'est ça, Le Grand Stupéfiant. Hein,
qui n'est pas... Donc, c'est une première tentative, mais en même temps, ça lui met le pied à l'étrier. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à publier. Mmh. Voilà. On va peut-être retourner à ses textes, puisque on va aller jusqu'au bout en compagnie des textes d'Ardelais. Soudain, l'immense, la panique... La sournoise complicité qui relie les hommes m'apparaît. Ils portent tous des masques, comme j'en porte un, mais parfois ils l'ôtent. Certes, je n'exprimerai cela que bien plus tard, mais l'essentiel est devant mes yeux. Ils avouent, prononcent des mots et des prénoms qui ressemblent à des grognements. Ils tendent les bras vers leur Germaine et leurs 12 ans. Ils marchent dans des rues jonchées de feuilles mortes. Dans les mines de sel, dans des villes fantômes où des putains leur offrent des mécaniques molles. Une pièce dans la fente, et ça démarre. Elles aussi, les putains, appellent au secours avec des mots, des prénoms qui ressemblent à des grognements. Branleurs des tasses, poètes des graffitis, commis voyageurs fourbus, maniaques, boudins hors d'usage. Dites-moi que vous vous souvenez, que vous avez su, comme je savais, sous les noyers de la coudre. Il y a des jours où le monde ouvre tout grand ses pénitenciers, ses laboratoires nucléaires, ses casernes, et met les clés sous le paillasson. Des gens se sont donné le mot aujourd'hui, et c'est ce mot, intraduisible, qui circule à travers la campagne assommée par Juillet et cherche à m'atteindre au passage. Vous étiez avec moi, sans le deviner, au bord de la rivière, au bord du désir.
Un immense entonnoir du côté d'Ivry. Tout ce que la ville a rejeté, vomi, jugé indigne de ces enfers et de ces fours crématoires, vous appartient. Bidets, matelas éventrés, seaux hygiéniques, oripeaux d'assassins, tartes aux cheveux, seins en plastique, cadavres de chats, bandages hernières, terrines éclatées, masques à gaz, tentures pourries, groins, pansements, journaux, revues. Mes poèmes y ont paru. Momies des troncs, renards, frasques, postillons, têtes de turc, soupe figée, perruques de comique, vanille, cannelle, canne, canule, forceps, bourrique torturée, brouet spartiate, dentier. L'un appartient au plus somptueux modèle de Renoir. Foetus confit. Guignol à l'étouffée, sangsue exsangue, Mata Hari, mécanique avortée, photo porno, Eichmann, Landru, pneu, entonnoir pour la question, boc, simulacre en caoutchouc, baiser, lame, lune, coquille d'huître, porte-jartel des condamnés à mort, miroir contre la flèche du temps, miroir ordinaire en miettes, os de gigot, Bono, Garnier, Valet, Gardenia, violons brisés parce qu'ils avaient l'âme française, tronc, froc, frac, corde pour faux pendus, fusillés de 20 degrés, fusillés de 20 degrés, tout, vous dis-je, est à votre disposition. Ça pue. Des rats, gorgés, gros comme des chiens, soulèvent parfois cette croûte. Lui, le milliardaire d'air et d'air, se tient sur le pourtour. Il a vu Ceylan, les Bermudes, le pôle, la plaine Saint-Denis, Yokohama, le Posilip et la mer d'Italie. Et c'est bien qu'aucun paysage du monde ne peut l'émouvoir à ce point. Un liseron, une violette réfractaire qui pousse entre ses charognes, il n'en demande pas plus. Vieux.
Il y a ceux pour qui le printemps jamais ne glisse en fraude une rose entre les barreaux de leurs cellules. Une rose pareille au sexe des filles qu'ils ne toucheront plus. Les condamnés à vie, déjà morts dans leur univers de béton, de matricule, de cadran, de serrure, et qui butent sans répit contre le paradis cadenassé. Ohé, vous autres, libres, entre le caviar et la putain qui va baisser son slip, pensez-y quelquefois. Ils ont tué, violé, pris le bien d'autrui, mais ils n'étaient faits à leur ressemblance, à votre ressemblance, avec des figures d'hommes, des désirs d'hommes, des larmes de joie, des larmes de désespoir. Ils payent maintenant. Ils ne doivent plus rien à personne, et nul ne leur doit plus rien, croyez-vous. Mais, ô printemps, toi qui rôdes sur les tuiles tièdes, glisse en fraude dans leur sommeil, pour qu'ils l'embrassent, une rose, pareille au sexe des filles qui furent leur printemps.
Le voyeur a 34 ou 72 ans. Il est vêtu mésirablement ou avec recherche, mais toujours, son attitude provoque la méfiance. Il ressemble à un homme égaré en plein midi au milieu de la ville. Malgré son nom, les divertissements érotiques d'autrui ne l'ont jamais attiré outre mesure. Il recherche de plus déroutants spectacles. Vous l'apercevrez comme frappé de stupeur devant une porte cochère, un arbre, un immeuble en démolition. Planté devant la fenêtre entrouverte d'un rez-de-chaussée, il paraît suivre avec une extrême attention la scène qui se déroule à l'intérieur. Et lorsque vous vous approchez, vous constatez que le logement est vide. Certains affirment qu'il voit, d'où son nom. D'autres qu'il imagine seulement. Il est possible que le voyeur ait surpris, une fois au moins, une faille dans les façades qui bouchent les regards. Sinon, on s'expliquerait mal son obstination. À part sa manie, il se comporte dans l'existence en homme sain d'esprit. Il croit à un complot permanent des apparences que seule la fatigue trahit parfois. Et c'est ce moment de faiblesse qu'il espionne avec une inlassable patience, trappeur des grandes cités opaques. Tel se présente le voyeur, souvent pris pour un homme ivre ou un pornographe.
Répertoire qui s'appelait aussi dictionnaire poétique. Clair de lune, un balai posé contre un mur sous une lucarne.
Guêpes au casaque de jockey, à la taille d'hélicoptère. Elles attaquent les mirabelles avec une minuscule foreuse électrique dont, par temps calme, on perçoit la vibration dans les vergers. Guêpe prise dans une bouteille de sirop et défunte en signant l'été.
Rose. La vôtre surtout, petite fille modèle, bagatelle rouge de confusion.
Mente. La menthe au souffle coupé. Alerte, des jeunes filles qui embrassent comme la menthe.
Fourmi, sable noir d'un tablier horizontal.
Abricot, Dans son verger, la cantinière cultivait des abricots délicieux, pleurant de suc. Quand un bleu lui plaisait, un bleu tout neuf, effleurant bon sa province, elle lui en glissait un dans la main. Elle avait 35 ans.
Baiser. Sucette à faire pointu. À la Marie-Claude, à la Gisèle, à la Marielle. Demandez votre préféré. Qui veut mes sucettes ? Sucette à faire pointu. Une fois le papier d'argent ôté, c'était la langue de Marie-Claude, de Gisèle ou de Marielle, avec sa pulpe et son goût, que vous achetiez pour une somme dérisoire, tout renaissant quand vous fermiez les yeux. Ce marchand a disparu, du moins dans les grandes agglomérations, et les guides touristiques ne le signalent pas à l'attention des visiteurs.
Haie. Arrête-toi devant la haie. Fais l'inventaire. Une toile d'araignée, absente, avec un fragment de mouche à droite, plusieurs crottes de lapin, deux trous de mulot, un colimaçon qui laisse un peu de luisant sur les feuilles, cornes, bicornes, gendarmes, les demoiselles sont en larmes, des fourmis, une vieille cartouche de chasse au tube de carton décoloré qu'il a jeté là, de l'herbe, de la mousse, des feuilles tombées. La batterie de sarrasin commence chez les pénelles, un cerisier lâche d'un seul coup tous ses loriots, mais ne détourne pas ton regard. Voici le moine en boule, pèlerin des menus sentiers, le hérisson. Fais-toi souche ou tas de pierre, sinon...
Comment cela a-t-il débuté ?
Eh bien voilà, avant, c'était comme toujours.
Pardon ?
Je veux dire, une journée comme toutes les journées. Soudain, il y a eu un temps d'arrêt.
Un passage à vide.
Et puis ça s'est remis en marche. Mais pas tout à fait de la même manière.
Qu'est-ce qui s'est remis en marche ?
Les choses, les bruits, le soleil, les arbres.
Vous avez déjà vu des arbres se remettre en marche ?
Non, bien sûr. C'est une façon de parler. Ça s'est remis à vivre. Seulement les choses, vous auriez dit qu'on les avait retouchées, en mieux.
Mais qu'entendez-vous par retoucher ?
Je ne sais pas, moi. Vous avez vu des photos de la même personne, vous la reconnaissez. Pourtant, sur l'une, elle est plus réussie que sur l'autre, voilà.
Bon. Et d'après vous, qui ou quoi aurait pu produire cette transformation ?
Ah, ça !
Où se passait la scène ?
Dans un bois.
Sur une plage.
Peut-être bien. En effet. Maintenant, je me souviens, à travers les arbres, on apercevait du sable, de l'eau.
Cela ne vous a pas surpris de découvrir une plage à 400 kilomètres de la mer ?
Eh bien, si j'y avais réfléchi, sur le moment, ça m'aurait probablement surpris, mais le fait est que je n'y ai pas réfléchi.
Mais de quel bois s'agissait-il ?
Je ne sais plus.
Vous devriez pourtant savoir, vous étiez là.
Ah, oh, pour être là, j'y étais. Je n'ai même jamais eu autant l'impression d'être quelque part.
Mais que faisiez-vous dans ce bois ?
Rien.
Et vous, sur votre plage ? Je présume que vous n'y faisiez rien non plus ?
Non, monsieur.
Vous n'aviez jamais rencontré le premier témoin auparavant ?
Non, jamais.
C'est par hasard que vous vous trouviez sur le lieu en même temps que lui ?
Absolument.
Poursuivons.
Une jeune fille nue a traversé le chemin devant moi.
Pas nue, elle portait un short. Très court, soit, mais un short quand même.
C'est fort possible. Elle a passé comme un reflet. Il faisait un temps radieux.
À lessiver toutes les misères.
Il me semblait qu'il y en avait partout de ces filles. Je n'étais plus pressé.
Pressé de quoi ? Ben, ou par quoi ? Et vous ? Vous ne vous êtes pas posé de questions ?
Des questions pourquoi ? Il n'y avait plus de questions. Ni d'hier, ni de demain. Hier, c'est le regret. Demain, c'est le doute, les soucis.
Il n'y avait plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, grand comme le monde, monsieur. Ah, quelle belle journée !
J'avais tout mon temps.
Et moi aussi, on s'en serait fait crever de ce truc-là.
Simplement à être sur Terre.
Quelqu'un s'est mis à chanter très loin.
Très près.
C'est ça, très loin et très près à la fois, comme des milliards d'insectes.
Comme la nuit et les étoiles.
En plein jour.
Permettez, les étoiles.
Non, à force, ça devenait du silence, et puis juste à l'instant où vous attrapiez le silence...
Ça chantait de nouveau.
J'avais des fougères chaudes jusqu'aux épaules. Les filles se cachaient, mais pas loin.
J'entrais dans la mer, elles m'appelaient les sirènes.
Ah, pardon! Vous intervertissez les rôles. Vous, premier témoin, vous parliez d'un bois, et vous, témoin 2, d'une plage.
On a dû se croiser en route. Quelle importance! J'aurais voulu que ça dure, que ça dure.
Et moi donc?
Revenons à l'objet de cette enquête.
Bien. À un moment donné, il y a eu un déclic,
une rupture.
En sens inverse, je me suis retrouvé comme avant.
Rejeté, exclu.
J'ai continué à marcher, mais le cœur n'y était plus.
J'ai allumé une cigarette, la dernière.
Après, longtemps après, je suis arrivé devant une station d'autobus.
Moi, devant une gare de banlieue.
Et voilà.
Et combien de temps a duré ce phénomène ?
Allez donc vous rendre compte. Quand vous sortez de l'anesthésie après une opération... Tenez, moi, lorsqu'on m'a opéré de l'appendice...
Je vous en prie.
Bon.
Quelle heure était-il ? D'après certains recoupements et d'autres témoignages que nous avons recueillis, cela devait se passer le 13 juin, entre 3 et 4 heures de l'après-midi.
Oui, par là, 3-4 heures.
C'est donc dans cet intervalle de 50 à 60 minutes, le 13 juin, que l'événement s'est produit.
Quel événement ?
C'est à moi qu'il incombe de poser les questions ici. Je vais résumer vos dépositions. Le 13 juin, entre 15 et 16 heures, alors que vous parcouriez un terrain boisé donnant sur un lac ou sur un étang, j'écarte, cela va sans dire, l'hypothèse d'un bras de mer. Vous avez éprouvé une sorte d'hallucination. Les choses vous ont paru subir une métamorphose dont l'origine et la nature vous échappent. Une jeune fille sommairement vêtue a traversé un chemin. Vous avez eu l'impression que soudain, le bois recelait d'autres personnes, invisibles toutefois. Des chants se sont fait entendre à des distances variables. Peut-être en raison du choc provoqué par ces circonstances inhabituelles, vous ne vous rappelez plus le nom du bois et vous ne pouvez fournir aucune justification de votre présence sur les lieux. Ensuite, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est bien ça ?
Non, pas exactement.
Comment non ?
Ça ne colle plus.
Mais qu'est-ce qui ne colle plus ?
Les mots, les phrases.
Ah, il manque l'essentiel.
Mais qu'appelez-vous l'essentiel ?
Ah, voilà, quelque chose qui comptait plus que tout le reste.
Vous comprenez, avant et ensuite, ça paraissait terne, fade.
Et moche, tandis que pendant... C'est peut-être ça l'événement.
Mais quel événement ?
Celui dont vous nous avez parlé.
J'ai parlé d'un événement, moi ?
Excusez-moi, il m'avait semblé.
Enfin, il s'est bien passé quelque chose.
Mais c'est précisément ce que l'enquête s'efforce d'établir.
On s'est peut-être trompés tous.
Nous n'en sortirons jamais si nous n'observons pas plus de rigueur, de méthode. Reprenons depuis le début, nous finirons bien par découvrir un indice.
Vous ne croyez pas qu'il s'agit... d'une très vieille histoire dont personne ne connaît la fin. Moi-même, je me demande...
Je crois surtout que j'ai un rapport à rédiger et à transmettre.
Bon, allons-y. Au début, c'était un jour comme les autres.
Plutôt moche.
Tout s'est arrêté. Et puis...
Ouais. Voilà, ainsi s'achève cette première émission consacrée à André Ardelais, alors qui a été préparée par Christian Boisson, Patrick Vendrin et moi-même, avec la participation d'Yves Flanck et de Joël Jacobi, qui est pour la première fois avec nous. Alors peut-être il nous est remarqué qu'il n'y avait pas de voix féminine dans cette émission. Bon, il nous a semblé que l'univers d'Ardelais était très masculin et que...
Bon, ça ne... Il semble aussi que, comme il faut dire Montpellier, on pourrait peut-être dire Ardelais.
Eh bien non, on dit Ardelais, justement. Je me suis fait remonter les bretelles par
Alors,
Agathe
Alors, je dirais Montpellier, désormais.
Alors, Montpellier, voilà, merci. Donc, il faut remercier aussi les musiciens à qui on a emprunté des musiques. Il y avait Grant Green, il y avait également Cannonball Adderley, il y avait Dino Saluzzi pour Kultrum, la chanson de Germaine Montero, Amisha, interprétée par Renaud Garcia-Fons, et puis toujours la très belle musique qui nous sert d'indicatif de Hadouk Trio.
Voilà, je pense qu'on a rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine émission. Et tu voulais nous faire une annonce?
Oui, une fois n'est pas coutume. Et dans la rubrique « On n'est jamais si bien servi que par soi-même », Michel Arbatz jouera et chantera son spectacle « Vivons la vie », accompagné par Olivier Roman Garcia, guitare, bouzouki et percussion, les 19, 20 et 21 décembre à 20h30 à la Baignoire. Qu'on se le dise.
Voilà, et vous pourrez retrouver la BIP partout sur vos lieux de travail, de loisirs et de paresse quand vous voulez en envoyant un mail à la radio Clapas.